Aujourd'hui au balado Sport-Aide, une rencontre vraiment attendue. Nous recevons Nancy Audet, auteure, conférencière, animatrice. Nancy, bienvenue.
Ça fait plaisir d'être là.
Auteure d'un livre « Parcours improbable d'une petite poquée », un livre qui frappe. Moi, je l'ai lu dans les derniers jours. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est d'avoir quelqu'un d'aussi rayonnant devant soi. La première question, puis là, il y a beaucoup de choses que l'on va pouvoir explorer ensemble, mais la première qui me vient, c'est comment on peut être rayonnante comme ça aujourd'hui? Comment tu as réussi à te reconstruire? Puis en même temps, je suis à peu près convaincu que la reconstruction n'est jamais terminée, considérant ce que tu as vécu. Mais comment on peut s'expliquer ça, ce que je vois là?
Je pourrais te répondre pendant au moins une heure, parce que c'est compliqué, c'est de se remettre de ça. Plus jamais la honte, c'est un livre qui trace le portrait de mon enfance, où j'ai subi beaucoup de maltraitance. J'ai hésité longtemps avant d'écrire ce livre-là, mais dans les dernières années, je me suis impliquée beaucoup auprès des enfants de la DPJ. Je suis maintenant marraine des enfants de la DPJ pour la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal. Et je me suis rendu compte que chez ces enfants-là, chez ces adolescents-là, il y a beaucoup de honte. On a honte de ce qu'on a vécu. On est très stigmatisé. Encore trop souvent, on a l'impression que c'est de notre faute. Hein? On n'était pas un bon enfant. C'est pour ça qu'on n'a pas été aimé. C'est pour ça qu'on a été parfois abandonné. Et j'avais envie de leur dire que c'était pas vrai. J'avais envie, parce que même moi, à 40 ans, je ne parlais jamais de ma vie. Je ne parlais jamais de mon enfance, même pas à mes amis proches.
Tes proches ne savaient pas ce que tu avais vécu?
Je pense que il y en a beaucoup qui savaient que j'avais presque aucun lien avec ma famille biologique. Mmh. Donc, c'était un peu tabou. J'ai des amis, les mêmes amis depuis 20, 30 ans. On ne parlait pas souvent de ça. Je pense qu'ils me respectaient. Peut-être qu'ils sentaient aussi que je n'avais pas envie d'en parler. Mais un jour, j'ai réalisé que si moi, je n'étais pas capable de me tenir debout, de regarder ces enfants-là puis de leur dire qu'ils n'avaient aucune raison d'avoir honte, je trouvais que je ne leur envoyais pas le bon message. Je me suis dit qu'il fallait que j'aie le courage maintenant d'être honnête par rapport à ma vie, par rapport à mon parcours, puis peut-être même essayer d'être fière. C'est pas encore le cas. Il faut que je sois honnête. C'est difficile pour moi d'être fière de ça, d'avoir réussi à surmonter tout ça. Un jour, ça va peut-être arriver.
Ça va peut-être arriver.
Ouais.
Ah ouais. Pourtant.
Ouais. Ouais. Pourtant. C'est la confiance, l'estime, c'est quelque chose qu'on travaille sur plusieurs années. Mais pour répondre à ta question sur comment j'ai fait pour me reconstruire, c'est plusieurs années. J'ai eu la chance d'obtenir l'aide dont j'avais besoin. J'ai eu des thérapies. Et je suis aussi tombée sur des êtres humains assez exceptionnels. C'est des êtres humains qui ont cru en moi quand moi, je ne croyais pas du tout en moi-même, qui m'ont tendu la main. Puis ce qui a été important pour moi, c'est que j'ai pris la main. J'ai pris les mains tendues. Ce qui n'est pas facile pour un enfant qui subit de la maltraitance, parce que souvent, les enfants ne font plus confiance à l'adulte. On a tellement manqué d'amour envers eux. T'sais, souvent, les personnes qui devaient les protéger le plus sont celles qui les ont protégés le moins, qui les ont aimés le moins. Donc, ils ne veulent plus faire confiance, ils ne prennent plus le risque d'être déçus, de souffrir aussi. Donc, ils se ferment complètement. Mais pour s'en sortir, il faut accepter l'aide. On ne peut pas y arriver tout seul, c'est impossible. Pas quand tu as subi des traumatismes, de la maltraitance, de la violence psychologique, des abus sexuels. Il y a encore beaucoup d'enfants, malheureusement, au Québec, qui subissent des abus sexuels. On les voit dans les chiffres, dans les statistiques, au niveau des signalements à la DPJ. C'est énorme, là. C'est inquiétant aussi. Donc ça a été long. Puis, tu sais, la preuve, c'est que j'ai commencé à parler de mon parcours seulement au début de ma quarantaine. Donc, ça vous donne une idée de comment ça a été difficile pour moi de me rebâtir. Mais mon rêve le plus fou, c'est que les jeunes qui sont là aujourd'hui, à la direction de la protection de la jeunesse, que ce soit en famille d'accueil, en foyer de groupe, en centre de réadaptation, ben, qu'on leur offre des services qui vont faire en sorte que pour eux, ça va être moins long. Puis que très tôt dans leur parcours, ils n'auront pas peur de parler, puisque la prise de parole, c'est important. Moi, je leur dis, parler, c'est aussi guérir. Il ne faut pas jamais avoir honte de parler de ce que vous avez vécu. La honte, elle ne vous appartient pas. C'est pas à vous autres, la honte. Là. Ça appartient aux personnes qui vous ont fait du mal. T'sais. Mais puis je leur dis beaucoup que ce qu'il y a de bien, c'est que ça va faire d'eux des enfants très forts. Quand tu as traversé ça dans l'enfance, là, la maltraitance, ça fait de toi un être humain très fort, qui n'aura pas peur d'affronter les épreuves de la vie. Tu sais. C'est ça.
Tu mentionnais qu'il y a plusieurs personnes qui ont jalonné ton parcours. Puis il y a Manon, je pense, notamment. Là, puis il y en a d'autres que tu nommes dans le livre. Mais tu sais, quand on est jeune, puis tu l'as nommé aussi, on ne fait plus confiance. Comment tu reconnais ces personnes à qui tu peux faire confiance? Surtout quand tu es jeune, là, c'est encore plus difficile.
Oui. Ben, je pense qu'on a un bon instinct quand même, les jeunes. Moi, Manon, j'ai compris. En fait, je la regardais agir avec ses propres enfants. C'est souvent ça. Je voyais comment elle était aimante, comment elle était bienveillante. J'ai compris que je pouvais lui faire confiance. Tu sais, j'ai rapidement senti que cette femme-là ne me ferait pas de mal. Même s'il y a des exceptions, tu sais, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui peuvent jouer ce rôle-là auprès des enfants. Puis le livre, c'est pas juste pour les enfants. C'est pas juste pour mes petits poquets puis mes petites poquets. C'est aussi pour les gens. J'avais envie que les gens qui vont lire mon livre aient envie de tendre la main. Mm-hmm. Aient envie de faire plus. Des fois, c'est une personne qui va changer la vie d'un enfant qui vit des difficultés. Vous le savez pas, mais vous pouvez être cette personne-là qui va changer la vie d'un être humain, d'un petit être humain. C'est un entraîneur, c'est un professeur, c'est un brigadier, c'est un chauffeur d'autobus, c'est un voisin, c'est un ami de la famille, c'est un cousin. C'est de se réengager dans la vie des enfants. Je pense qu'on s'est, pour toutes sortes de raisons, on a pris pour acquis peut-être au Québec, on avait le gouvernement, puis on avait la DPJ, puis ces gens-là s'occupaient des enfants. Puis, tu sais, il y a bien des jeunes aussi qui ne sont pas signalés, là, il faut dire ça, puis qui ont besoin aussi d'un coup de main, là. Mais je pense qu'on s'est désengagé de notre rôle. Puis, il faut qu'on se réengage. Parce que, tu sais, l'année passée, il y a eu plus de 118 000 signalements au Québec. C'est énorme, là. Ça fait peur. Donc, le gouvernement, c'est impossible. Peu importe ce qu'on va investir comme argent, le gouvernement ne pourra pas y arriver tout seul. T'sais, il va falloir que la société se réinvestisse. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est les fédérations sportives, les associations, les organismes communautaires, les écoles. Il va falloir qu'on recommence à former un grand village autour de nos enfants. Parce que ce serait mentir de dire que ça va bien. Ça ne va pas bien. Il y a plus de 38 000 enfants dans le système actuellement. C'est énorme. Puis ce sont des enfants qui, demain, c'est nos adultes de demain, c'est des enfants qui vont avoir de la difficulté à contribuer à la société si on ne leur donne pas un coup de main. Donc, j'espère que les gens qui vont refermer mon livre vont avoir envie de faire plus. Puis, tu sais, des fois, c'est le petit enfant dans la classe qu'on n'invite pas à la fête d'amis. Tu sais, moi, je me souviens qu'on ne m'invitait jamais aux fêtes d'amis. La petite Odette, il fallait se tenir loin là, parce que c'était une enfant à problème. Mais vous ne savez pas comment ça me faisait mal le lundi matin quand tous les petits élèves parlaient de la fête où ils sont allés pendant la fin de semaine. Tu sais, j'aurais donc aimé qu'on m'offre ce petit îlot-là de bonheur. Donc, je dis souvent aux gens, l'enfant que vous n'avez pas envie d'inviter là, à la maison, puis lui offrir ce petit moment-là, c'est le premier que vous devriez inviter. L'enfant que vous n'invitez pas là, à venir jouer au hockey avec les vôtres, là, parce que le petit voisin, il est trop... Je pense que vous devriez l'inviter à venir jouer au hockey avec vous. C'est...
Revisiter le passé comme tu as fait, ça peut faire peur. Ça t'a fait du bien d'écrire, de mettre sur papier.
Pas tant.
Non?
Non. On me dit ça tout le temps. Ça t'a fait du bien? Est-ce que tu te sens libéré? Non. Honnêtement, là, Sylvain, là, moi, si ça avait été juste de moi, puis m'être parfaitement honnête avec toi, là, je serais restée dans ma petite bulle. Parce que moi, ma petite bulle, là, ma famille, j'ai travaillé fort pour l'avoir, puis être bien dans ma vie, puis être sereine. Donc, je trouvais que je me mettais en danger. Ça me rendait très vulnérable de publier ce livre-là. La seule raison pour laquelle je l'ai faite, c'est pour eux. C'est juste pour ça.
Est-ce que tu le regrettes?
Par amour pour eux. Non, parce que j'ai reçu des centaines de messages depuis la sortie du livre. Beaucoup de grands poquets. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui me disent « Je me sens moins seule, merci. » La maltraitance est beaucoup plus répandue au Québec qu'on pense. Vous ne savez pas le nombre de messages là, que j'ai reçus d'hommes, là, de femmes, 65, 68 ans, qui me disent qu'ils sont passés à côté de leur vie à cause de la maltraitance qu'ils ont subie puis de la violence qu'ils ont subie dans leur enfance. Ça me touche beaucoup puis ça me fait de la peine. Puis moi, je leur dis, il n'est jamais trop tard. Tu as 65 ans, il t'en reste peut-être 10 encore. Tu as encore le temps d'être heureux puis tu as encore le temps d'être bien, mais va chercher l'aide dont tu as besoin. Mais j'ai aussi reçu des messages de parents qui m'ont dit, Nancy, j'ai été ébranlée par la lecture de ton livre parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le parent que je voulais être pour mon enfant. Merci parce que je vais aller chercher l'aide dont j'ai besoin pour devenir le parent que je veux être pour mes enfants. Et je me suis dit, si c'est juste ça, c'est déjà...
C'est énorme.
C'est énorme. Puis si je peux sensibiliser les gens, c'est si... Il y a 10 personnes qui décident de faire plus pour les enfants, ben ça va être 10 enfants qui vont être plus heureux, puis c'est correct. Mais sinon, moi, personnellement, je me serais bien protégée dans ma petite bulle, puis j'ai hésité longtemps, là. T'sais, on me l'a demandé une fois, deux fois, trois fois, puis je disais non, je veux pas l'écrire, non, je veux pas l'écrire. C'est fait, c'est correct. Mais tu sais, moi, je regarde là, ailleurs. Mon regard est porté vers l'avenir. Tu sais, moi, je me mets dans l'action. Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant pour aider les enfants concrètement? Donc, ça, c'était un geste parmi d'autres, là. Mais il y a plein de choses qui s'en viennent dans mon engagement envers eux, là.
Puis on peut pas en parler maintenant? Mais c'est prometteur.
Bien, écoute, je suis quand même marraine de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal depuis janvier. Ça fait quelques mois. On a beaucoup de projets. On a une soixantaine de programmes qui sont offerts aux jeunes. Je veux que les jeunes fassent plus de sport aussi. J'en démords pas. Parce que je pense que le sport, pour ces enfants-là, comme pour tous les enfants, mais pour eux, c'est souvent moins accessible. Alors, on n'a pas beaucoup d'argent. Le sport organisé, souvent, c'est pas accessible pour eux. Il faut qu'on... Ils méritent, eux aussi, hein, ces possibilités-là. Parce que le sport, tu le sais, là, ça te permet d'apprendre la vie, de te créer un réseau, de te former en tant qu'être humain. Ça t'apprend à vivre en société. Ça t'apprend des règles de vie. Mais aussi, ça te permet d'extérioriser. Moi, ça m'a sauvé la vie parce que j'ai sorti toute ma colère là, dans le sport. Là.
Mais ça te permettait de
J'étais
te valoriser
pas arrêtable.
Aussi,
ben aussi énormément. Parce que, tu sais, heureusement, j'étais très talentueuse dans les sports. Puis j'étais valorisée à cet endroit-là, que ce soit les sports de combat, le basket, mais la boxe puis le karaté, moi, je sortais tout mon méchant là, puis je suis contente d'avoir sorti le méchant sur un sac ou, tu sais, ça m'a apporté beaucoup, donc je veux que... Puis si c'est pas le sport, ça peut être autre chose. Hein. On a des programmes de tutorat, on veut qu'ils puissent faire de la musique, de l'art-thérapie, de la zoothérapie. Il y a un super programme de zoothérapie avec des chevaux, puis tout ça. Puis c'est des programmes qui fonctionnent, qui leur font du bien. Donc moi, je continue dans cette voie-là. Je veux faire partie de la solution. Mais on a encore beaucoup de choses, là, qui s'en viennent dans la prochaine année.
Tu as aussi été journaliste sportif à Radio-Canada, TVA Sport. Les dernières années n'ont pas été faciles pour le monde du sport, le sport amateur, où il y a beaucoup trop de scandales qui ont fait les manchettes. Toi, ayant eu une enfance difficile, quand tu réalises que nos jeunes sportifs, nos jeunes sportives ont des expériences traumatisantes comme celle-là dans leur pratique sportive, tu réagis comment à ça, toi?
Bien, c'est sûr que ça me fait de la peine parce que, tu sais, le sport, c'est supposé être un endroit sécuritaire. Puis souvent, les parents, on pense que quand on laisse notre enfant à l'aréna ou qu'on laisse notre enfant au tennis, bien, notre enfant est en sécurité. On a la tête tranquille. Mais c'est à nous de se regarder dans le miroir aujourd'hui puis de se dire comment on peut s'assurer d'offrir cette bulle-là sécuritaire à nos enfants. Mais ce qui se passe, c'est fidèle à la, à la vie. Là. Que tu regardes n'importe où. Là, si tu regardes dans le milieu de l'art, dans le milieu de la musique, la problématique, elle est partout. Là. Donc, c'est pas juste dans le milieu du sport. Donc, c'est à nous, en tant que société, de se regarder puis de trouver les solutions. Tu sais? Mais je pense qu'on a ouvert les yeux. Oui. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, puis il y a Sportaid, il y a des choses qui ont été mises en place dans les dernières années. Ça me parle beaucoup. On s'est mis en action pour changer les choses. Il y a juste du bon, je pense, qui va ressortir de ça. Mais moi, ce que je veux passer comme message aux jeunes puis aux athlètes, c'est parler. Parler. Parlez à vos parents. Parlez aux personnes de confiance. Si vous vivez quelque chose de pas correct, restez pas dans le silence. Restez pas avec votre secret. Il faut parler. C'est hyper important.
Puis aux parents, si tu avais un conseil à donner, parce que tu sais, quand je regarde ton parcours, la réflexion que je me faisais quand je lisais tout le succès que tu avais dans le sport, puis en parallèle, tes parents absents, tu avais un facteur de risque vraiment important contre toi. Fort heureusement, à moins que tu fasses une révélation, tu sembles avoir rien vécu de négatif dans la pratique sportive.
Que du positif.
Ça, c'est impressionnant.
Oui.
Et quand tu dis que c'est important, les jeunes, de parler, je pense que pour les parents, c'est aussi important d'écouter, surtout quand on sait que des jeunes, des gens qui vivent des choses, avant de demander de l'aide, bien souvent, ils ont envoyé, émis des signaux dans leur entourage jusqu'à 7-8 fois avant qu'enfin il y ait une personne qui écoute et qui entende. Alors, pour les parents, c'est important pour toi aussi qu'ils assurent un meilleur rôle, une meilleure présence.
La vigilance. T'sais. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on s'intéresse. T'sais, c'est autant s'intéresser à ce qui se passe à l'école de notre enfant, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans la pratique de son sport. Mais je pense aussi que le danger, c'est qu'on voit... Il y a beaucoup de parents qui voient leur enfant comme un futur olympien, futur champion de boxe ou de tennis. Puis on est beaucoup axé sur la performance, puis on est un peu omnubulé, on est aveuglé par ça. Et puis c'est dangereux parce qu'on fait une confiance, on a une confiance aveugle en la fédération, on a une confiance aveugle en l'entraîneur, parce qu'on veut tellement que notre enfant réussisse. On oublie, tu sais, le rôle essentiel qu'on a auprès de notre enfant, c'est assurer sa sécurité. Assurer sa sécurité, c'est le numéro un. Donc, il n'y a pas de question là, mon enfant va devenir un champion. Non, votre enfant, il va faire du sport parce que c'est bon pour la santé. Parce que c'est un endroit où il va être heureux, où il va se défouler. Puis si un jour, il a envie de faire du sport de compétition, bien, tant mieux, ça lui appartient. S'il a envie de vivre cette pression-là, ce stress-là, inquiétez-vous pas, là. Si il a cette personnalité, il a envie de ça, il va se développer, là. Mais je trouve qu'on ajoute souvent une couche de trop par rapport à nos enfants. Faut revenir à le bonheur de pratiquer le sport. Tu sais, l'autre jour, je vais toujours voir les enfants jouer au baseball. Il y a beaucoup de parcs autour de chez nous. Puis il y a beaucoup de terrains de baseball. Puis j'adore aller arrêter, regarder les enfants jouer. Des tout petits, là, 6, 7, 8 ans. Puis l'été passé, je suis derrière la grille. Puis je vois un petit garçon qui s'en vient derrière le marbre. Il est tout petit, il doit avoir 7 ans, tout frêle. Puis son père vient s'installer en arrière. Puis il parle, puis il parle. Puis il met de la pression. Puis le petit bonhomme, il passe dans le vide une fois, deux fois. Puis là, mon cœur, là, oh, j'ai mal pour lui. Là, je ressens toute la pression de son père. Là. Mais c'est un match pour le plaisir. Il est petit de même. Je savais, là, puis la troisième fois qu'il a passé dans le vide, là, la tête baissée comme ça, là. Son père, il a tout retiré le bonheur qu'il a à jouer au baseball.
T'as pas besoin d'un supporter comme ça.
Et j'aurais eu envie d'aller voir le papa puis mettre la main sur l'épaule puis dire « T'as une chance, tu sais. » C'est la pire chose. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire pour ton enfant. Tu sais. Donc, c'est ça, la vigilance puis s'assurer que notre enfant est en sécurité.
Quand on observe tous les sports que tu as pratiqués dans ton enfance, à l'adolescence, c'est pas vraiment un hasard si tu es arrivé à devenir journaliste sportif. Et c'est une prédiction que tu avais faite à quelqu'un qui était cher, qui était proche de toi, ton grand-papa. Hein, à un moment donné, tu lui as dit, je vais te les lire, les nouvelles du sport, à un moment donné. Mais comment tu en es arrivé à gravir, puis dans un monde où ça demande beaucoup de confiance, il faut que tu aies confiance en toi, tu te reconstruis à travers ça, tu te découvres, tu as eu des expériences difficiles à l'adolescence aussi. Tu es passé par la Sorbonne. Écoute, comment tu réussis, comment tu as réussi à renverser la vapeur comme ça?
L'éducation. Vraiment. Ça a été ma porte de sortie, mais moi, on me le disait. Il y a une femme un jour qui m'a pris sous son aile, Manon, puis elle me disait, Nancy, l'éducation, c'est ta porte de sortie. T'as pas de famille, t'as pas de réseau. Si t'as pas d'éducation, ça va être difficile pour toi dans la vie. Puis elle avait raison. Puis elle a insisté beaucoup. Même des fois, je la trouvais un peu, un peu fatigante. Mais elle avait tellement raison. T'sais, ça a changé ma vie, l'éducation, de A à Z. Mais ça a été difficile. J'ai été journaliste aux nouvelles pendant longtemps, aussi avant. À Toronto, à Ottawa, à Québec. J'ai appris mon métier, j'ai beaucoup aimé ça. Le sport, ça a été un peu la cerise sur le sundae. On me disait tellement qu'il n'y avait pas de travail pour les femmes dans le sport. Donc, ça a été une chance pour moi là, de pouvoir en vivre aussi longtemps. J'ai 17 ans au total, 10 ans au sport, c'est quand même beaucoup. Mais moi, quand j'ai arrêté l'école après le cégep, là, j'ai un petit passage à vide. Puis à 24 ans, je suis retournée en journalisme. Puis quand je suis arrivée, je me souviens que je regardais les autres de la classe puis je voyais que j'allais avoir de la difficulté à les suivre. T'sais. Il y avait une meilleure éducation que moi. Ils étaient tous beaucoup plus politisés que moi. Mais chez nous, l'éducation, c'était pas important. Mes parents n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Donc, tu sais, la barre était vraiment haute. J'en ai pris conscience rapidement. Tellement que moi, après une session, on m'a envoyé une lettre pour me dire que si mes notes augmentaient pas, qu'on allait être obligé de me mettre dehors du programme. J'ai pleuré beaucoup. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver si je me fais mettre en dehors de l'école de journalisme? Finalement, je me suis mis à rentrer à 7-8 heures le matin puis à partir à 8 heures le soir, à travailler comme une folle. Puis je pense que les professeurs, à un moment donné, m'ont un peu pris en pitié. Ils disaient, mais mon Dieu, elle veut tellement. On n'a pas le choix, on va l'aider. Tu sais, ils ont vu ma détermination. Là. Mais tu sais, quand tu n'as rien dans vie, là, tu t'accroches, tu n'as pas le choix. Tu as juste ça. Fait que moi, j'avais juste ça. Mais si je vais m'accrocher, m'a donné tout ce que j'ai, all in, puis si ça fonctionne, mais tant mieux. Puis tant mieux pour moi, ça a fonctionné. Puis tellement qu'après mes deux premières années, il y avait un programme international pour aller étudier à l'étranger. Il fallait avoir une moyenne très élevée que j'ai obtenue. Et c'est comme ça que j'ai une bourse d'études pour aller étudier à la Sorbonne à Paris. Puis tu sais, alors que la montagne avait été difficile à gravir à Ottawa, à la Cité collégiale, bien là, à la Sorbonne, je veux dire, c'était l'Himalaya. J'étais arrivée là, ça n'avait aucun bon sens. Je n'étais pas préparée du tout à ce qui m'attendait. C'était... Ah, mon Dieu! J'ai travaillé vraiment fort.
Tu devais te sentir vraiment seule parfois parce que, tu sais, l'entourage, là, on sait comment c'est important, puis il n'y en avait pas, là, toi. Là. Faut être fait fort, en quelque part.
Bien, il y a beaucoup de larmes. Il y a beaucoup de larmes dans mon parcours, c'est beaucoup de nuages gris. Et je m'accrochais tout le temps. Je ne sais pas comment. Il devait y avoir quelqu'un à quelque part qui me protégeait. Là. Mais là-bas, à Paris, souvent, je me souviens, il fallait que je fasse des exposés oraux. Là, puis je voyais toutes les épaules comme ça qui shakaient. Là, t'sais. Tout le monde criait de moi avec mon accent, puis la personne que j'étais. T'sais. J'étais un peu. Je suis une fille de Saint-Dominique-du-Rosaire, mmh, t'sais, mon père est bûcheron, c'est... Donc, mais j'ai pas lâché, puis à la fin de l'année, ça riait moins, t'sais. Il y avait moins d'épaules qui tremblaient, mmh, quand je parlais, puis ça m'a beaucoup transformée, cette expérience-là, ça m'a donné beaucoup de confiance, même si ça a été très difficile. Quand je suis revenue de Paris, je me suis dit, OK, si j'ai traversé une année à la Sorbonne...
What's next, là? Il y a, ouais,
je pense que là, je vais être capable de rentrer dans une salle des nouvelles. Mm-hmm. Puis, effectivement, j'étais mieux préparée. Pas longtemps après, j'ai commencé à TVA, puis après ça, Radio-Canada pendant plusieurs années, puis après ça, je suis retournée à TVA. Mais je me suis toujours demandé, mais avec le peu de confiance que j'avais, j'ai aucune idée pourquoi j'ai choisi ce métier-là. C'était pas un choix... c'était pas une passion. Je pense que c'était un choix émotif, parce, mm-hmm, que moi, avec mon grand-père... c'est un homme qui était vraiment important dans ma vie. On était beaucoup, on passait beaucoup de temps ensemble. Puis on écoutait les nouvelles chaque soir, puis on lisait le journal ensemble tous les jours. Fait que c'était lié à ce moment-là, tu sais, que j'avais, qui était réconfortant, un moment de bonheur. Donc j'ai eu envie de c'était associé à mon choix de carrière, je pense qu'il était associé à l'émotion plus qu'à autre chose, hein, les beaux moments que je passais avec lui. Il était bien heureux, bien fier quand j'ai réussi à rentrer dans une salle des nouvelles puis à devenir journaliste à la télé. Là, il regardait tous mes reportages. Il est décédé malheureusement aujourd'hui.
Tu le racontes dans le
mais c'est ça. Mais c'est je sais pas comment... je me suis toujours dit que c'était le pire choix, je pense. Là, parce que c'est un métier tellement compétitif, tellement difficile. Travailler dans une salle, mm-hmm, des nouvelles, c'est épouvantable. T'sais, souvent, ce que vous voyez à la télé, là, c'est juste, c'est beau. Il y a juste ça de beau. Tout ce qu'il y a en arrière, c'est pas beau. C'est vraiment difficile. Mais on le fait, c'est ça, on le fait tous parce qu'on est très passionnés. Puis on est prêt à endurer pas mal pour faire ce travail-là. C'est peut-être un problème aussi, mais en tout cas... Mais de toute façon, on a vu dans la dernière année, hein, que... Dans tous les milieux, c'est, mm-hmm, y a bien des milieux où c'est pas difficile, là. Où c'est très difficile. Donc, c'est ça. Le métier de journaliste fait pas exception.
Hey Nancy, précédemment, on a brièvement parlé de ta carrière de journaliste sportif. C'est un environnement qui est difficile. T'es une femme. Comment ça s'est passé? Parce qu'à travers la lecture du livre, on peut comprendre que ça n'a certainement pas toujours été facile. Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'il y en ait davantage qui rayonnent puis qui prennent une place à laquelle elles ont droit?
Bien, je pense que c'est un changement de mentalité. Tu sais, on a besoin d'un changement de culture au niveau du sport, des organisations sportives partout au Canada, au Québec, mais c'est la même chose pour le journalisme sportif. Je pense qu'on a besoin d'un changement de culture. On a besoin de voir ça autrement. Pour toutes sortes de raisons, je pense qu'on a encore l'impression qu'une femme, c'est pas capable de parler de sport, que ça connaît pas le sport autant que les hommes. Mais je pense même qu'il y a des hommes qui s'en rendent pas compte dans que leur comportement ou que leurs décisions sont problématiques. Ils sont pas capables de se voir. Donc, ça aussi, il faut changer la culture. Parce que oui, il y a des femmes qui connaissent le sport. Mm-hmm. Oui, il y a des femmes qui sont capables d'en parler. Puis même, je trouve qu'on est complémentaires, les hommes et les femmes. Les hommes, moi, je trouvais que les hommes m'apprenaient beaucoup sur l'analyse sportive, les techniques, tout ça. Nous, les femmes, on aime beaucoup comprendre la préparation, ce qui se passe en arrière, la préparation physique, psychologique aussi, tout le processus pour arriver à la performance, alors que les hommes, je trouve qu'ils sont vraiment très bons pour analyser la performance sportive en tant que telle. Mm-hmm. Je trouve tellement qu'on n'est pas capable de profiter de ces deux, de ces forces-là pour les mettre ensemble puis travailler. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il... Tu sais, je lisais en fin de semaine qu'il y a une femme qui rentre à la presse comme journaliste, oui, sportive. Ça fait des, mm-hmm, années qu'il n'y en a pas eu. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait aucune femme journaliste dans les journaux, autant francophone qu'anglophone. Pratiquement pas de femme journaliste sportive à la radio. Il y en a quelques-unes, heureusement, à Radio-Canada, mais c'est très minime. Très peu à la télé. Analystes, on commence à peine à en voir. Puis je trouvais ça dommage parce que, tu sais, par exemple, au Québec, on a plusieurs des meilleures hockeyeuses au monde. Kim Saint-Pierre, Caroline Ouellette, Marie-Philippe Poulin, mais on ne les voit pas comme analystes. Mais pourtant, les femmes sont capables d'analyser la game, là. Autant qu'on a été fermés par rapport à ça. Une femme, ça ne peut pas faire d'analyse, mais voyons donc. T'sais, c'est pour ça que je te dis, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Moi, j'espère, je prie fort pour que la génération qui s'en vient, ben on va leur faire une vraie place. Une vraie place. Parce que souvent, on va donner aux femmes... on va demander aux femmes de jouer un rôle secondaire dans les émissions. Tu sais, ah, tu feras les réseaux sociaux. Ah, tu viendras nous parler des jupettes des joueuses de tennis à Wimbledon, tu sais. S'il vous plaît, on peut-tu arrêter? On peut-tu être sérieux un peu, là?
Comment t'as réussi, toi, à faire ta place dans un sport comme la boxe? C'est pas là où on s'attendrait, surtout quand on recule d'il y a une quinzaine d'années, alors que tu commençais dans le journalisme sportif. Comment tu as réussi à te faire une place dans la boxe, dans les arts martiaux mixtes? Comment tu as réussi aussi à gagner le respect de cette communauté-là?
Qui n'est pas facile. Mm-hmm. C'est des drôles de bébites. Mais tu sais, souvent, c'est un milieu qui... tu ne rentres pas dans un gym de boxe ou dans un gym d'arts martiaux mixtes. Mm-hmm. Si tu viens d'une famille aisée la plupart du temps, t'sais, c'est souvent des gars qui rentrent dans un gym de boxe pour apprendre à se défendre. C'est des gars souvent, puis des femmes qui sont en mode de survie. T'sais. Ce sport-là leur permet de survivre. C'est des gens qui ont souvent eu des parcours très difficiles. Ils sont nombreux, là, les boxeurs, les athlètes en sport de combat, à me dire que le sport a sauvé leur vie, tu sais, qu'ils s'en allaient pas dans la bonne direction, que ça les a ramenés. Beaucoup de boxeurs aussi, que ça leur permet de...
Tu te reconnais?
Ben, de gagner. Ben oui, c'est sûr. Avec le recul, je pense que leur côté batailleur, le côté de « on n'a pas le choix pour survivre de se battre. » Tu sais, il faut se battre. Ça me rejoint beaucoup. J'ai énormément de respect pour eux. Je pense qu'ils l'ont senti. Ils ont pas toujours ce respect-là. Il y a beaucoup encore de préjugés entourant ce sport-là. T'sais, c'est un sport violent, on ne va pas se le cacher. Là. Le but, c'est quand même de passer le KO à ton adversaire. Là. Moi, je peux pas... Les gens me disent « Hey, tu couvres un sport violent? » Oui, c'est vrai. C'est un sport violent, mais c'est un sport qui sauve beaucoup de vies aussi. Et c'est un sport extrêmement exigeant. T'sais, j'ai couvert tous les sports. J'ai jamais vu des athlètes souffrir autant. Là. Ce qu'ils se font endurer, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui seraient capables de se faire ça chaque jour. Là. 2 à 3 entraînements par jour. Mais pas juste ça, des entraînements exigeants, t'sais, physiquement, mentalement. Puis pour rentrer dans un gym de boxe, rentrer dans un ring de boxe ou rentrer... dans un octogone, moi, de dire qu'il faut... Je peux pas le dire le mot. Je peux pas te dire ça.
On comprend l'image.
On le dit-tu, en tout cas. T'sais, il faut avoir un cœur de lion, là. Il faut du courage, là. Vous savez pas comment c'est difficile de dire, moi, là, je monte dans un ring pour essayer de battre le gars qui est en face de moi, puis on est un contre un, là, puis le meilleur gang, là, c'est incroyable. Ça prend... C'est des drôles de bébites, comme je vous dis, là, tu sais. Mais c'est ça, j'ai de l'admiration pour eux, pour leur force de caractère, pour leur détermination au jour le jour. À se faire subir toute cette souffrance-là au gymnase, il faut être un peu fou. Mais c'est ça, j'ai beaucoup de respect pour eux.
Si on vient à ton passage en journalisme sportif, là, sans refaire le passé, bon, il reste que ta sortie n'était pas celle que tu souhaitais. Je l'ai échappé. Si on revient à ton passage comme journaliste sportif, la sortie n'était pas celle que tu souhaitais. Est-ce que tu as eu l'impression, une nouvelle fois, de revivre de l'abandon? Puis comment tu as dealé avec ça?
Non.
Non?
Non, non. Parce que quand nous, on a été mis en arrêt temporaire pendant la pandémie, quand même pendant 7 mois, moi, je savais qu'on ne pouvait plus, la chaîne perdait énormément d'argent. Je savais qu'il allait avoir des coupures. Puis cet arrêt-là, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de réaliser que j'avais accompli tout ce que je voulais accomplir. Mm-hmm. J'ai levé la main pour dire « je suis prête à partir okay. ». J'ai été quand même très chanceuse. Là, c'est pas tous les jours où on t'offre ce qu'on appelle un « package de départ ». On m'avait offert Moi, j'avais toujours rêvé de travailler sur des séries documentaires, sur des documentaires. Mm-hmm. Parce que travailler au jour le jour dans une salle des nouvelles, c'est vraiment exigeant. Puis c'est des deux minutes, hein. Mm-hmm. Ça te nourrit pas beaucoup. Ça fait longtemps que j'avais envie d'ajouter de la viande autour de l'os, là, puis aller plus loin dans mes recherches. Puis... Donc, j'étais super chanceuse là, de pouvoir trouver un super contrat chez Attraction Images. De pouvoir vivre ça. La transition s'est faite tout en douceur, tout naturellement. Même moi, j'ai été surprise. Tu sais, je m'attendais à ressentir un peu de tristesse, mais je pense que ma coupure était faite. Puis aussi, je l'ai dit, tu sais, moi, mon engagement envers les enfants de la DPJ, c'était devenu tellement important pour moi. J'avais comme l'impression que toute l'énergie que je mettais dans ma carrière en journalisme, mm-hmm. Ma vie était là, là. Je mettais 90 % de mon énergie là, le reste pour ma famille. J'avais pas de marge de manœuvre. Donc, il fallait que je prenne une décision pour aller me chercher de l'espace. Parce que cette cause-là, pour moi, est trop importante dans ma vie maintenant. Il faut que j'ai de l'énergie. Il faut que je m'investisse envers eux. Il faut que je fasse bouger les choses. Donc, travailler dans une salle des nouvelles puis t'impliquer en même temps dans une cause comme ça, c'est presque impossible, là. Donc... En production, en série documentaire, le rythme de travail est plus humain et plus raisonnable. J'aime beaucoup ce rythme-là. J'ai retrouvé une vie. T'sais, mon conjoint te dirait qu'il m'a jamais vue aussi heureuse. Il a croisé l'autre jour ma nouvelle collègue de travail, puis il a dit « Je veux juste prendre le temps de te remercier du fond du cœur d'avoir donné une job à ma blonde parce que je l'ai jamais vue heureuse comme ça. » Puis ça m'a fait sourire. J'étais comme, t'es-tu si pire que ça? Ça fait quand même plusieurs années qu'on est ensemble. Il dit non, je te vois juste plus heureuse, tu sais. Puis à la base, c'est ça qu'on veut, toujours être plus heureux, plus épanoui. J'aime beaucoup l'équipe avec laquelle je travaille en ce moment. Non, j'ai vraiment tourné la page. Puis tu sais, demain matin, on m'offrirait le double de ce que je gagnais, puis je retournerais pas là. Je suis vraiment bien où je suis aujourd'hui. Je suis sur mon X.
Ouais.
Je suis sur mon X.
On a évoqué ta reconstruction au début de la discussion, puis il y a quelque chose dans le livre sur lequel tu reviens qui est important, c'est le pardon. À un moment donné, tu as senti le besoin de pardonner à ta mère, malgré tout ce qu'elle t'avait fait vivre. Comment on choisit? Pourquoi on choisit? Puis comment on en arrive à réellement pardonner, là?
Mais ça aussi, c'est un processus qui est long. Mais à partir du moment où tu réalises que tant que tu ressens de la colère, tant que tu ressens de l'amertume, de la rancune, c'est tellement souffrant, c'est tellement pas beau de ressentir ça. Tu dors pas bien, t'es pas bien dans ta peau... J'avais plus envie que ça m'habite. Il y a un psychologue qui m'a dit, « Nancy, pardonner, ça veut pas dire reprendre contact. Ça veut pas dire avoir un lien avec la personne. Le pardon, là, c'est un processus qui est totalement personnel, puis tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour les autres. Moi, je l'ai fait pour moi. Moi, je sentais que si je pardonnais pas, je ne pourrais pas être heureuse et je ne pourrais pas être la mère que je voulais être pour mon enfant. Le choix, ça s'est imposé. T'sais. Je l'ai fait. Puis comme je te dis, c'est pas facile. Mais à partir du moment où je l'ai senti, là, puis je me suis sentie bien, j'ai fait « Ah, oh, c'est ça! » Puis je dors mieux, puis je vis mieux, puis plus souriante, la vie, c'est plus léger. Mm-hmm. mes proches te le diraient. Là. J'ai vraiment laissé quelque chose de pas beau derrière moi. Là. Ça, c'est fini. Les petites rechutes une fois de temps en temps, c'est normal, mais je sais comment les gérer. Ça ne dure jamais longtemps. Avant, ça pouvait me durer deux semaines, trois semaines d'insomnie. Maintenant, un gros 24 heures, là, puis je me suis pas mal replacée.
Qu'est-ce que tu dirais à des victimes qui portent la honte, qui n'ont pas encore parlé? Qu'est-ce que tu leur dirais pour faire comme tu as fait et dire « plus jamais »?
D'un, j'ai envie de leur dire de parler. Parce que parler, c'est guérir. Ils n'ont aucune raison d'avoir honte. La honte, c'est leur agresseur. C'est son agresseur, leur agresseur qui doivent avoir honte, pas eux. Mais que si on parle pas, si on garde ce secret-là dans nous, ça va nous ronger. C'est parler, mais c'est aussi de dire à leurs proches qu'il faut écouter. C'est primordial. Parce qu'une victime ne peut pas guérir si elle n'est pas crue. Puis il y a encore trop de victimes aujourd'hui qui ne sont pas crues. Puis ça me brise le cœur. Une femme, un homme, un enfant, un adolescent qui va raconter qu'il a été abusé sexuellement, dit la vérité. Mm-hmm. On n'invente pas ces choses-là. Il faut l'écouter. Il faut l'entourer de compassion, d'empathie et puis le croire. C'est vraiment important. Nous aussi, on fait partie de la problématique en ne croyant pas les victimes. On les agresse une deuxième fois. Mm-hmm. C'est ça, ne pas entendre une victime. Puis lui dire aussi, tu sais, qu'elle a le droit d'être heureuse. Donc, pour être heureuse, je pense qu'il n'y a pas plus grande victoire qu'on peut faire par rapport à notre agresseur, c'est réussir à retrouver ce bonheur-là. Puis pour ça, il faut aller chercher l'aide. Il faut chercher l'aide dont on a besoin. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas guérir tout seul là, de ça. Là. Mm-hmm. Parce que tout dépendant, quand on a été victime d'une agression sexuelle, je le dis souvent, là, c'est quelqu'un qui a décidé de nous voler notre âme. Là. Mm-hmm. Mais ton âme, tu ne la retrouves pas comme ça tout seul. Là. Ça ne se retrouve pas. Il y a tout un processus de guérison derrière ça qui peut parfois prendre plusieurs années, mais si on ne va pas chercher cette aide-là, on ne peut pas guérir, c'est impossible. On ne guérit pas tout seul, là, dans son coin. Hein.
Est-ce que c'est ce que tu appelles laisser entrer la lumière?
Ça, c'est difficile. C'est pour ça que la page couverture de mon livre, oui. Plus jamais la honte, j'avais demandé à la photographe, je voulais m'installer devant la fenêtre, puis je voulais qu'on voit le soleil arrivé dans mon visage, puis elle comprenait pas trop mon concept, puis techniquement, bon, c'était pas génial. Mais je lui expliquais que quand on a été victime, souvent, on a honte, puis on a l'impression qu'on la mérite pas, la lumière. Fait qu'on se tient toujours à l'ombre. Dès que la lumière rentre, on se cache à l'ombre. On n'a pas d'estime de nous-mêmes. Puis moi, je dis aux victimes, t'as le droit. Toi aussi, d'avoir la lumière. Il faut que tu laisses entrer la lumière dans ta vie. Tu as le droit autant que les autres. Prends-la, la lumière. Accepte-la dans ta vie. Parce que c'est ça que ton agresseur t'a pris. Mm-hmm. Il t'a pris ta lumière, tu sais. Tu la vois plus. C'est toujours le nuage gris au-dessus. Mais c'est pas ça. Mais pendant trop longtemps, on se tient loin des rayons du soleil. Mm-hmm. C'est très souffrant. Donc, C'était ça ma photo. Puis moi-même, ça a été bien long avant que j'accepte de les laisser rentrer, ces rayons-là, dans ma vie. Mais maintenant, je ne vais plus les laisser partir. Là. Ça, c'est,
est-ce qu'il t'arrive ça, parfois des moments où des flashbacks, tu as envie de fermer les rideaux puis d'empêcher la lumière d'entrer? Plus tu avances, de plus en plus c'est rare.
Quand ça m'arrive, je l'accepte. J'accepte mes limites. Si j'ai envie une journée de me coucher en petite boule, je le fais. C'est correct. On a le droit. Puis ça m'arrive comme tout le monde, comme toutes les personnes qui ont été victimes. Mais rapidement, je sais qu'il faut que je sorte dehors. Okay. Tu sais, je mets mes souliers puis je vais courir. Je vais courir, je m'active, j'apporte de l'oxygène à mon cerveau, je prends des grandes bouffées d'air parce que sinon c'est facile de se laisser aller aussi. Mm-hmm. Mais tu sais, avant, souvent, quand j'avais ces moments-là où j'avais envie de mettre en petite boule, je m'autorisais pas ça non plus. Non, mais...
Il faut les vivre,
mm-hmm. C'est correct. Puis c'est correct de pleurer. Puis c'est correct d'avoir ce que j'appelle des petites rechutes. C'est bien correct, puis c'est normal. Puis c'est aussi de prendre le téléphone, d'appeler un ami, d'appeler un proche, mm-hmm. quelqu'un à qui on a confiance, pour lui dire « Aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée. » J'avais juste envie d'en parler avec toi. T'sais. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je faisais jamais.
T'avais peur de déranger dans la bêté déjà?
Ah, j'étais juste pas capable de partager rien de ça. Là, je montrais toujours le beau côté joyeux. T'sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, puis ça me frappe, ça me fait un peu de peine. Ah, j'aurais jamais cru ça, Nancy. Quand je te voyais, toujours le gros sourire, tout le temps de bonne humeur, tu sais. Mais pourtant, quand je me retrouvais chez moi, c'est des soirées à pleurer en boule dans mon lit. J'étais bonne là, pour cacher ça. J'étais devenue pas mal, mais comme beaucoup de victimes. Tu sais, vous le savez pas, mais au bureau, vous avez, tu sais, puis un peu partout, des collègues. Vous savez jamais ce que les gens ont vécu. Mm-hmm. Tu sais, vous savez pas c'est quoi leur parcours, là. Vous seriez surpris. Tu sais, comme je vous ai dit, moi, j'ai reçu des centaines de messages depuis la sortie de mon livre, puis il y a beaucoup de gens, tu sais, mm-hmm. qui ont vécu des choses très difficiles. Fait qu'il faut éviter de juger les gens. On serait vraiment surpris de voir qu'il y a pas mal de personnes qui ont vécu des choses difficiles. Puis c'est ça, de prendre le temps de se parler, de pas les juger aussi, là. Tu sais, ça peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, là.
Il y a 5 ans, la vie t'a fait un beau cadeau.
Oui!
Une petite fille.
Ça, je vous l'avertis, je pleure à chaque fois.
Avant que ça arrive.
Je peux pas parler de ma fille sans pleurer ma vie.
Mais hey, tu dois avoir un paquet de choses qui te frappent là, pendant la grossesse. Probablement habité par des craintes, des peurs de reproduire, de ne pas être à la hauteur. Comment tu as navigué à travers tout ça?
Bien, c'est pour ça que je tombe enceinte à 38 ans. Je ne pouvais pas me faire confiance. Moi, je disais, si il y a un petit risque, même minime, que je fasse souffrir un enfant, bien, j'en aurais pas. Même si je ressentais, là, hey, moi, là, depuis là, que j'ai 20 ans, que je rêve d'avoir un enfant, j'aime les enfants, mais je refusais de me faire confiance. Je me disais, tout d'un coup que j'ai ça en moi puis que je le sais pas. Donc, j'ai attendu à 38 ans pour l'avoir, mon bébé, tu sais. Puis même pendant ma grossesse, là, je parlais chaque soir, mais je sais pas si je parlais à elle ou à moi, mais je disais, ça va bien aller, tu vas voir. Ça va bien aller. Je t'aime, je vais bien prendre soin de toi. Tu sais, tout ça. Puis écoute, quand elle est arrivée, ça a été une explosion d'amour. C'était tellement fort ce que j'ai ressenti. Puis on m'avait averti, on m'avait dit, tu vas voir, Nancy, c'est très confrontant. C'est pour ça qu'il faut que tu sois prête. Parce que c'est souvent quand tu as un enfant là, que tout ressort. J'ai été chanceuse d'avoir été bien préparée. Parce que j'ai ressenti autant de tristesse que de bonheur. J'ai ressenti le bonheur d'être maman, puis j'ai ressenti toute la tristesse du monde de savoir que, ben, c'est ça que j'ai pas eu, moi. Ouais. Cet amour-là, puis comment ça, je ne l'ai pas eu?
En veux-tu à la vie, dans ce temps-là?
Non, mais c'est très confrontant. C'est tu comprends pas. Tu ne comprends pas. Parce que c'est tellement beau, cette chose-là, l'amour que tu ressens pour ton enfant, c'est tellement fort que tu comprends pas comment ça, tu ne l'as pas eu. Donc, il faut être prêt, tu sais, heureuse. J'étais quand même prête, mais comme je vous dis, j'ai pleuré, là. Et tu sais, je me souviens que moi, ma fille, elle était hospitalisée 2 semaines mm-hmm. après sa naissance à l'unité néonatale parce qu'elle était prématurée. Puis elle est dans mes bras à un moment donné, puis je la regarde, puis je me mets à pleurer, mais je pleure ma vie, mais tu sais, fort, là. Des gros sanglots. Puis il y a une infirmière qui part en course, puis Madame Odessa, est-ce que ça va? Puis là, j'ai oui, ça va super bien. Il dit, ah, vous êtes heureuse? Comme jamais! C'était, écoute, une explosion d'amour puis de gratitude aussi. J'étais tellement heureuse de m'avoir fait confiance. Mais aussi, tu sais, Nathalie Simard, elle m'avait dit que quand sa fille a eu 11 ans, c'est là qu'elle... Elle a tout a revécu, ses agressions. Ça l'a complètement brisée parce qu'elle, elle avait 11 ans la première fois qu'elle a été agressée sexuellement. Puis quand tu vois ton enfant à cet âge-là, tu réalises comment tu étais fragile. Tu sais, tu réalises comment t'avais pas un corps de femme puis comment t'as rien fait pour mériter ça. Tu sais, ton agresseur, souvent, va te faire sentir que c'est toi qui voulais ça, c'est toi qui l'as cherché, t'as essayé de le séduire. Mais quand t'as 11 ans, tu sais, quand elle voyait sa fille à 11 ans, elle fait « Oh, mon Dieu! » Ah! Elle a réalisé tout ce qu'elle avait subi à cet âge-là puis comment elle était fragile. Bien, moi, pour moi, c'est la même chose. Tu sais, moi, la première fois que j'ai été hospitalisée, j'avais 4 ans... avec une violente commotion cérébrale. Mm-hmm. Mais quand ma fille a eu 4 ans, puis j'ai regardé comment elle était tout petite, comment, là, tu sais, je pourrais la prendre vulnérable. Par un bras, comment elle est vulnérable, c'est très confrontant. Mais j'étais prête, mais j'ai compris ça. Tu sais, j'étais bien. Mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, tu sais. Puis ma plus grande fierté, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, tu sais, ma plus grande fierté à moi, ça reste d'avoir brisé le cycle de violence.
Mm-hmm. Tout à fait.
C'est ma plus grande réussite, ma plus grande fierté. C'est ça.
Quand tu parles de ton père maintenant, parce que tu es encore en contact avec lui, il doit être animé d'une fierté indescriptible parce qu'il sait ce que tu as vécu.
Ouais.
Il sait, là, il est très bien placé puis il voit où tu es maintenant.
Oui, il est très fier. T'sais, pour lui aussi, ça n'a pas été facile. Là, moi, mon père, mon père partait à la semaine. Mm-hmm. Il travaillait dans la forêt. Il partait le lundi matin, il revenait le vendredi soir. On lui demandait souvent de me punir.
Le fameux crochet sur la porte.
Oui, on lui demandait souvent de me battre. Il a toujours refusé. Il avait droit à la liste de tout ce que j'avais fait de mal durant la semaine. Puis il voulait pas. Puis c'est lui qui mangeait les coups. Hein. Mm-hmm. Si je me souviens de ça, là, quand il refusait de me faire subir ça. C'est lui qui le subissait. Lui aussi, tu sais, je l'aime beaucoup. On a fait la paix avec tout ça. On est très proches. Je veux qu'il y ait une place dans ma vie. Je veux qu'il y ait une place dans la vie de ma fille. Puis je voulais qu'on guérisse ensemble. Puis on va bien. On a guéri ensemble. Très fière de lui aussi. Il n'a pas eu une vie facile. Mm-hmm. Puis oui, il est fier de moi. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai toujours pensé que, bon, tu sais, ce qui le rendait plus fier, c'est quand même ma carrière de journaliste à la télé, puis quand j'ai couvert les Jeux, puis tout ça. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est ce que je fais maintenant qui le rend le plus fier, tu sais. Puis c'est étonnant parce que c'est confrontant pour lui aussi.
Ben oui, parce qu'il doit sentir une part de responsabilité dans ce qui est arrivé.
Fait que ça me touche beaucoup,
mm-hmm.
Tu sais. Ça me touche vraiment beaucoup.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos jeunes sportifs, nos jeunes sportives, nos enfants?
Un changement de culture. Un changement de culture au Québec, partout. Mm-hmm. Mais chez nous, là, ce serait le fun qu'on ait un changement de culture puis qu'on revienne à c'est quoi le sport pour un enfant? Mm-hmm. C'est tellement beau, le sport. Il y a rien de plus beau que ça pour nos enfants. C'est là qu'ils se développent, c'est là qu'ils se construisent. C'est une école de vie, le sport. Mmh. Puis je comprends pas, on a perdu ça de vue. C'est faut qu'on ramène ça. Puis la variété aussi, c'est bon que les enfants... Moi, j'ai fait tous les sports pas imaginables. Ça aussi, ça nourrit. Tu sais, trop jeune, à 4 ans, on voit un enfant déjà qu'on le pousse puis il va devenir joueur de la Ligue nationale de hockey. Hey, il y a aussi d'autres sports, là. Il y a plein de beaux sports. C'est important de se diversifier, puis je trouve ça le fun que on commence à en parler beaucoup. Hein. Il y a des joueurs de football qui disent qu'eux autres, s'ils sont bons, c'est qu'ils ont pratiqué plusieurs sports différents, puis se sont construits en tant qu'athlètes en puisant dans plusieurs disciplines différentes. Là, je pense au corps arrière, là, c'est juste parce que je veux te le nommer, mais qui a fait plein de sports avant d'arriver au football, puis il dit lui-même là, que c'est ce qui fait qu'il est si bon aujourd'hui. Mais aussi, on a vu, il y a beaucoup de scandales dans les dernières années. Il faut y faire face. Notre sport est malade. Je suis vraiment contente que Sport Aide existe. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Le gouvernement aussi qui a décidé de mettre en place des choses pour protéger les athlètes. Mais nous, en tant que parents, nous aussi, on doit faire partie de la solution. Mm-hmm. Puis arrêter de commencer à voir le sport de façon différente. Puis d'être vigilant aussi, comme je le disais tantôt, être vigilant par rapport à nos enfants, toujours garder un œil sur l'entraîneur, l'organisation, s'assurer que notre enfant est en sécurité physiquement, psychologiquement aussi. Puis c'est ça. C'est j'espère qu'on va voir ce changement de culture-là. On le sent, là. On sent qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a une prise de conscience, là, mais j'espère qu'on va y arriver.
Et nous, qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bien là, en ce moment, de recommencer à donner des câlins à mon monde, là, comme tout le monde, j'ai bien hâte. Je suis une câlineuse, puis ça me manque beaucoup de prendre mes amis dans mes bras, puis être là pour mon monde. Professionnellement parlant, c'est de continuer à travailler sur des beaux projets qui ont un impact, un vrai impact. Je travaille sur 2 séries documentaires en ce moment, ça m'anime.
C'est difficile de pas en parler, tu nous en as parlé, oui. Ça va être vraiment intéressant, écoute, et pertinent.
Ça fait longtemps que je me suis pas sentie fébrile comme ça, là. Tu sais, je suis excitée, j'aime ce que je fais, j'ai hâte de vous présenter ça. Plus personnellement, ben, c'est de poursuivre mon engagement envers les enfants de la DPJ. Puis faire partie de la solution.
Merci beaucoup, Nancy. Avec des gens comme toi, vos enfants sont entre bonnes mains. Merci beaucoup. À bientôt.
Ça fait plaisir.